nécessaire à sa santé et pour favoriser la reprise d'un travail. C'est en plus une belle occasion de pouvoir resserrer les liens avec son fils. C'est pourquoi nous vous demandons aussi votre aide dans ce nouveau départ à hauteur de 500 euros. Merci d'envoyer votre don à la Fondation Notre-Dame, 7 rue Saint-Vincent, 75 018 Paris. Votre don sera immédiatement utilisé pour Sonia. Vous pouvez également effectuer votre don en toute sécurité sur le site fondationnotredame.fr. Merci. Radio Notre-Dame, Marie-Ange de Montesquieu.
10h30, soyez les bienvenus sur Radio Notre-Dame. Merci de nous écouter tout de suite. Ecclesia Magazine, Élodie Chapelle revient sur la rencontre à Rome hier entre Monseigneur Fellé et le cardinal Levada, le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Un accord est-il possible entre Rome et la Fraternité Saint-Pédis? Décryptage tout de suite.
Ecclesia Magazine.
Ecclesia Magazine.
Élodie Chapelle.
Après un entretien de plus de 2h30 hier matin entre le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le cardinal Levada, et le supérieur de la Fraternité Saint-Pédis, Monseigneur Fellé, le Saint-Siège propose à la Fraternité Saint-Pédis l'acceptation d'un préambule doctrinal, condition qui ouvrirait à une possibilité de statut de prélature personnelle pour la Fraternité Saint-Pédis, même statut que l'Opus Dei. Alors, comment réagit la Fraternité Saint-Pédis? Quel est le sens de ce nouvel acte dans le processus de dialogue intensifié par Benoît XVI ces dernières années? Décryptage aujourd'hui avec plusieurs invités. Une précision pour commencer cette émission, je tiens à indiquer que Radio Notre-Dame voulait donner la parole dans cette émission à l'abbé Laurence, porte-parole de la Fraternité Saint-Pédis, mais il est, nous a-t-on indiqué, je cite, « matériellement injoignable et indisponible avant jeudi après-midi ». Avec nous, Gérard Leclerc, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes notre éditorialiste, hein, rédacteur en chef de France Catholique, on vous connaît bien sur cette antenne. Votre réaction tout d'abord par rapport à cette annonce?
Écoutez, elle est à la fois surprenante et pas surprenante. C'est-à-dire que si on y réfléchit bien, elle est dans la logique de tout ce qui a précédé. Il y a toutefois une surprise, c'est l'étonnante ouverture de Rome. C'est-à-dire que Rome semble vouloir accélérer les choses, et pour ce faire propose l'adhésion à ce préambule que nous ne connaissons pas d'ailleurs, mais dont la nature semble particulièrement intéressante. Parce que la distinction entre le socle de la foi, disons, et ce qui est de l'ordre d'une légitime discussion, est avancé. C'est un principe, je dirais, d'herméneutique nouveau, un peu à mon sens. Enfin, il n'est pas nouveau en ce sens qu'il a été sans cesse pratiqué, mais c'est peut-être la première fois qu'on le formalise d'une pareille façon.
On peut citer ce qui est indiqué par le Saint-Siège, hein, ce préambule énonce certains des principes doctrinaux et des critères d'interprétation de la doctrine nécessaires pour garantir la fidélité au magistère de l'Église et au Sentire cum Ecclesia, et en même temps, hein, tout en laissant ouverte à une légitime discussion l'étude et l'explication théologique d'expressions de formulations particulières présentes dans les textes du Concile Vatican II.
Oui. Ça me paraît intéressant, et d'ailleurs ça déborde le cas de la Fraternité Saint-Pédis. C'est l'attitude herméneutique qui s'impose à l'égard du Concile, comme d'une façon générale. Il y a une sorte de paradoxe par rapport au Concile, c'est qu'on a eu parfois le sentiment qu'il y avait un fondamentalisme conciliaire, si vous voulez, et que Vatican II était une sorte de bloc infrangible, alors que d'abord la multiplicité des textes, leur genre, même leur genre littéraire différent, impose de toute évidence une herméneutique extrêmement élaborée.
Alors Gérard, je fais juste une petite précision pour les auditeurs qui ne seraient pas forcément habitués à ce langage herméneutique, on le précise, ça veut dire interprétation, hein. important de le redire parce que c'est pas forcément encore dans le langage de tous. Gérard Leclerc, on va poursuivre avec vous. Simplement, je voudrais tout de suite qu'on file vers la sortie de l'église Saint-Nicolas du Chardonnay. Je m'y suis rendue hier soir pour savoir comment réagissaient les fidèles de la fraternité Saint-Pilice. C'est à la sortie de la messe, la solennité de la Croix Glorieuse. Voilà, la tendance était plutôt à la prudence, l'attente des directives, mais je vous propose tout de suite de les écouter.
Moi, je n'ai pas d'opinion particulière sur le sujet. Je fais confiance aux autorités de la fraternité Saint-Pilice. Il faut voir les conditions, vous savez, on serait toujours content évidemment que la tradition retrouve sa place dans l'église et que retrouve sa pleine place et qu'on ne soit plus traité comme des proscrits.
Nous, vous savez, on est des fidèles, ça me semble interpellé de décider, donc la décision qu'il prendra, ça sera la meilleure. On a entièrement confiance en lui.
Personnellement, je suis très content. Moi, je l'attendais depuis quelques années et je pense que c'est une bonne chose pour le bien de l'église. Je suis d'autant plus content que, voilà, un petit peu enfin, on reconnaît que, malgré, certes, le Concile Vatican II est un concile œcuménique, et en cela, il peut avoir sa place dans l'Église, c'est néanmoins un concile qui n'est pas dogmatique. Et je pense que c'était quelque chose qui était essentiel à reconnaître pour que les discussions aboutissent. Maintenant, voilà, je pense qu'on n'a pas eu, j'allais dire, meilleure relation depuis 88. On sait malheureusement ce qui a suivi 88, donc je pense pas qu'il faut trop s'enflammer. Et je pense pas non plus du tout, certains le diront, mais je pense pas que ça détruit, si jamais il y a accord, que ça détruit le combat de Mgr Lefebvre.
Bah, on attend ce que décidera la fraternité Saint-Pilice.
Bah, tout dépend des compromis qu'il faudra faire et dans quelle mesure ça pourra se faire.
À titre personnel, j'ai tendance à considérer que c'est déjà une bonne avancée. Dans le communiqué qui est sorti aujourd'hui, c'est laisser la possibilité de discuter des sujets qui ont été posés lors des rencontres qui ont eu lieu depuis un an et demi. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que cette prélature personnelle empêche ces discussions d'arriver à terme et que la fraternité se retrouve un peu coincée, entre guillemets, à adopter des positions qu'elle estime aujourd'hui ne pas être conformes au magistère de l'Église depuis plusieurs siècles. Moi, j'aurais tendance à dire bonne solution, mais attention à ce qu'il y a derrière. On a vu un peu les ecclésiadéistes, ce que ça peut donner aujourd'hui. On est d'accord, on n'est pas d'accord, comme on veut, mais ne pas aller dans cette dérive aujourd'hui, je pense que c'est la clé du débat en tout cas.
Ça n'a pas beaucoup d'importance ce qu'ils nous proposent. Pour nous, ce qui est important, c'est est-ce que Rome veut garder la tradition. Ça fait depuis 1988, même avant, qu'il y a une main tendue. Une main tendue pour qu'on rejoigne la Rome moderniste. Mais ça, Mgr Lefebvre a dit non. On voudrait que Rome se prononce vraiment sur la tradition. Et là, effectivement, on pourra, non pas rejoindre l'Église puisqu'on est déjà, mais se réconcilier vraiment avec l'autorité.
Voilà un échantillon de fidèles de la fraternité Saint-Pilice, interviewé hier soir à la sortie de la messe de Saint-Nicolas du Chardonnay. Gérard Leclerc, vous parliez donc de cette espèce de sortie d'un fondamentalisme conciliaire. Vous venez d'entendre ces fidèles. Voilà, donc Rome qui entre dans une attitude d'herméneutique qui s'impose. En même temps, on sent que de l'autre côté, c'est quand même assez tendu.
Oui, bien sûr, mais c'est un peu le paradoxe que moi j'ai toujours ressenti dans les contacts que j'ai eus avec les gens des cônes, si j'ose dire, et singulièrement Mgr Fellay. Mgr Fellay est partagé. Il est partagé entre la hantise de retrouver, disons, l'unité de l'Église, parce que il est quand même dans une situation singulière. Des gens qui se veulent les fidèles des fidèles se trouvent séparés de l'institution et du pape. C'est quand même une situation singulière dont beaucoup aspirent à sortir. Et en même temps, il y a la hantise de ne pas trahir en fait ce qui a été le combat de Mgr Lefebvre depuis Vatican II. Alors là, il y a une terrible peur d'être récupéré, d'être roulé dans la farine, pardonnez-moi l'expression. Donc, je pense que on retrouve chez beaucoup de paroissiens de Saint-Nicolas du Chardonnay cette double hantise.
Alors, avec nous, Nicolas Sénès, bonjour. Bonjour. Allô, allô.
Allô, allô.
Oui, très bien. Voilà. Bonjour, vous êtes journaliste à La Croix, un spécialiste des questions liées à la fraternité Saint-Pilice, à laquelle vous avez notamment consacré un blog. Vous êtes l'auteur également de La crise intégriste, 20 ans après le schisme de Mgr Lefebvre, un livre paru en 2008 chez Bayard Culture, voilà collection Essai. Quelle est votre réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre au niveau de ce micro-trottoir et puis Comment pressentez-vous les choses, hein, à votre avis, quelle sera la réponse de la Fraternité Saint-Pie-X ?
Je pense que ce que j'ai entendu est très caractéristique finalement des positions de la Fraternité. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment là au pied du mur. Ils doivent choisir entre deux attitudes contradictoires qu'ils ont depuis près de 40 ans. C'est d'une part un attachement, un amour pour l'Église et pour le pape et pour son unité en disant « nous sommes des enfants obéissants » et puis de l'autre côté leur détestation du Concile. Et je crois que là, ils sont vraiment au pied du mur à choisir, en étant obligés de choisir entre ces deux attitudes.
Et alors, quels sont vos pronostics ?
Ça va être très difficile. Effectivement, c'est déjà les quatre évêques de la fraternité qui vont devoir se prononcer. Déchirés, je pense, ils sont entre leur attitude de pas brader l'héritage de Monseigneur Lefebvre et un attachement au pape. Vous savez, il y a une image qu'ils aiment beaucoup employer à propos du Concile Vatican II en disant le Concile Vatican II, c'est comme une soupe, c'est très bien, mais il y a du poison dedans. Et si on met un petit peu de poison dans la soupe, là, c'est toute la soupe qui est empoisonnée, il faut donc tout jeter. Alors là, on leur dit non. Et je trouve que l'Église, elle a finalement une attitude très maternelle vis-à-vis d'eux. On a des enfants qui sont dans la soupe, et ils se sont roulés par terre, ils ont donné des coups de pied, on les a envoyés dans leur chambre, on a discuté avec eux, on les a fait revenir, et maintenant ils sont assis à table, et on leur dit, mais vous allez manger la soupe. Et eux, ils disent, mais nous, on est des enfants très obéissants, on adore nos parents, et en même temps, ils ont cette phrase, c'est, nos parents vont nous empoisonner. Donc, ils vont avoir à choisir entre ces deux attitudes, dire on est des enfants obéissants, on mange notre soupe, ou alors, définitivement, on quitte la maison. Ça va être très difficile le choix qu'ils auront à faire. Je ne sais pas du tout ce qu'ils vont choisir.
Gérard Leclerc, vos pronostics ?
Je suis un petit peu dans l'attitude de Nicolas Senès, je ne sais pas. Franchement, je pense que leur décision va être très 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 difficile à prendre.
Ouais, on le sent hein, dans la réponse d'ailleurs communiquée sur le site d'IKI, hein, réponse communiquée de Monseigneur Fellé hier soir. Hein, il insiste en disant « Notre croisade du rosaire qui se poursuit sur plusieurs mois encore doit s'intensifier pour nous permettre d'obtenir, par l'intercession de Marie, Mère de l'Église, des grâces de lumière et de force dont nous avons besoin plus que jamais. » Voilà, on sent que voilà, il va y avoir concertation, mais également tension.
Alors, je crois qu'il y a... Il y a quelque chose qui va compter quand même dans leur décision, c'est le fait que cette quand même ouverture du Saint-Siège, inespérée à bien des égards, elle ne se renouvellera plus. Enfin, s'il y avait une rupture dans l'année qui vient, je ne vois pas comment les choses pourraient reprendre dans les années qui viennent, et le schisme entre guillemets ne pourrait que se renforcer, ce serait quand même dramatique.
Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, hein, ce qui vient d'être dit, je vous propose tout de suite d'écouter également un canoniste. Hein, nous avons interrogé le père Emmanuel Petit, il est canoniste, prêtre du diocèse de Paris. On l'écoute tout de suite sur cette question de préambule, hein, donc condition indispensable pour acceptation, condition indispensable donc pour cette intégration de la Fraternité Saint-Pie-X.
Dans le processus de rapprochement qu'il y a eu entre la fraternité Saint-Pie-X et le Saint-Siège, il y a eu d'abord la levée des excommunications, et maintenant il s'agit d'envisager de donner un statut canonique à la fraternité, c'est-à-dire une place dans l'Église et une place dans la communion hiérarchique de l'Église. Ce qui implique évidemment d'être dans une vraie communion, dans une vraie obéissance, Et c'est pour cela qu'avant d'envisager un statut, hein, il y a une étape préalable qui est donc ce préambule, l'acceptation de ce préambule. Alors comme vous le disiez, on n'en connaît pas la teneur encore, en tout cas, pour l'instant on est au stade d'une discussion, mais évidemment on ne peut pas envisager une place dans l'Église, une vraie place dans l'Église pour la Fraternité Saint-Pie-X s'il n'y a pas un accord suffisant, évidemment, sur les questions importantes. Non pas celle de la foi, mais sur la manière de gouverner l'Église aujourd'hui.
Ce préambule contient des principes doctrinaux et des critères d'interprétation de la doctrine catholique nécessaires pour garantir la fidélité au magistère de l'Église, hein, c'est ce qui est dit dans ce que dit le Saint-Siège. Et en même temps, voilà, on lit que tout en laissant ouverte à une légitime discussion, l'étude et l'explication théologique d'expressions ou de formulations particulières présentes dans les textes du Concile Vatican II. Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait y avoir la possibilité de remettre en question certaines interprétations du Concile Vatican II ?
La question qui se pose avec la Fraternité Saint-Pédis, c'est celle de l'acceptation du Concile Vatican II, c'est ça qui pose problème. Hein. Sur la foi, bien sûr, on est les grands dogmes de la foi, on est d'accord, c'est pas ça qui est en discussion, effectivement. C'est vraiment la question du Concile. Alors, l'Église est attachée pleinement au Concile, il ne s'agit pas du tout de remettre en cause le Concile Vatican II. La question qui se pose concrètement pour nous, c'est de savoir, est-ce qu'on peut accepter dans la communion de l'Église des personnes qui sont critiques vis-à-vis du Concile Vatican II, sans pour autant remettre en cause, évidemment, le Concile lui-même. C'est évident que le Saint-Père et l'Église réaffirment de manière très claire leur attachement au Concile. Une fois que l'on a dit cela, et comment est-ce que l'on peut effectivement, de manière pratique, accepter des personnes qui sont critiques, qui ont des réticences à l'égard de certains choix qui ont été faits par l'Église au moment du Concile Vatican II. Donc ça veut dire que dans l'Église, il peut y avoir des divergences, ça peut être légitime, et la question est de savoir qu'est-ce qu'on peut accepter effectivement de divergences d'opinion, de pensée. Ça c'est au magistère de l'Église de le dire, donc c'est au pape et aux évêques de dire ce qui est acceptable voilà, pour rester dans la communion, même si on n'est pas d'accord sur tout. Évidemment, ça ne veut pas du tout dire qu'il s'agit de négocier en quelque sorte le Concile Vatican II et de faire une sorte de minimum commun sur lequel on serait d'accord, pas du tout. L'Église affirme son attachement au Concile et en même temps elle essaye de rassembler autour d'elle même ceux qui aujourd'hui sont réticents ou sont critiques à l'égard de certains aspects, certains points.
Si donc cette proposition de préambule doctrinal est acceptée par la Fraternité Saint-Pédis, il y aura une proposition, alors ça reste à établir, mais a priori ce serait le statut de prélature qui serait adopté pour la Fraternité Saint-Pédis. Oui. C'est ce qu'a déclaré hier le père Lombardi. Hein. Oui. Qu'est-ce que ça signifie précisément? Parce qu'on parlait d'ordinaria, prélature personnelle, ça veut dire quoi?
Alors, effectivement, donc, si il y a un accord suffisant, si le Saint-Siège estime qu'il y a un accord suffisant, notamment par rapport aux questions qui, encore aujourd'hui, divisent l'Église par rapport au Concile, on peut envisager un statut canonique, c'est-à-dire une place dans l'Église, une place concrète. Hein, comme dit Saint-Paul, dans l'Église, il y a plusieurs... qu'on parle l'Église d'un corps humain, il y a différents membres, chacun a sa place. Alors, il faut essayer de faire une place eh bien, aux traditionalistes. Le statut canonique, ça consiste à donner une place concrète qui s'articule avec l'autorité compétente, l'autorité du Saint-Père. Il s'agit évidemment toujours de respecter. La prélature personnelle, c'est un statut, c'est quelque chose qui est assez nouveau d'ailleurs, puisque c'est le dernier code de droit canonique qu'il a institué en 1983. Ça permettrait de donner un statut assez souple à la Fraternité Saint-Pédis, à la fois une place et en même temps... sans tomber évidemment dans ce qui serait le travers de créer deux églises parallèles. Parce qu'évidemment, c'est toujours ce que l'on peut craindre, finalement, de faire une fausse union, une fausse communion. On aurait deux églises parallèles. Les fidèles, avec cette solution envisagée, resteraient les fidèles de leur diocèse, où ils habitent, tout en pouvant bénéficier de l'action pastorale, du service pastoral des prêtres de la Fraternité Saint-Pédis. Ça veut dire donc que concrètement, il ne s'agit pas de créer une hiérarchie parallèle. On va éviter, j'imagine que le Saint-Siège veut éviter de tomber dans cette difficulté, mais il s'agit de donner aux évêques et auprès de la Fraternité Saint-Pédis un vrai statut qui serait dans la communion de l'Église, donc évidemment dans l'obéissance au Saint-Père, une
prélature
personnelle, et elle relève directement du siège apostolique hein, du Saint-Père. Ça permettrait donc de donner un vrai statut tout en respectant la hiérarchie de chaque église, de chaque diocèse.
Voilà, le père Emmanuel Petit, canoniste, prêtre du diocèse de Paris. Avec nous, monsieur l'abbé Philippe Laguéry, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Voilà, merci d'accepter notre interview parce que vous êtes en pleine retraite là. Hein, donc, merci.
Oui, je fais un petit break dans ma retraite. Le bon Dieu me pardonnera, j'espère.
Voilà, on l'espère. Voilà, vous êtes directeur de l'Institut du Bon Pasteur qui a été créé il y a 5 ans, qui accueille d'anciens de la Fraternité Saint-Pédis. Monsieur l'abbé, sur un forum, hein, cette proposition du Saint-Siège, voilà ce que disent certains, rien à voir avec les cacahuètes accordées à l'Institut du Bon Pasteur. Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir attendu? De ne pas avoir attendu?
c'est l'apéritif, ils ont peut-être encore un peu de résistance derrière pour les cacahuètes. Écoutez, je pense que ce qui se passe est très encourageant, mais nous n'avons pas eu les cacahuètes. Nous avons eu déjà le plat de résistance, et il n'est pas dit non plus encore que ce plat de résistance soit servi maintenant, accepté en tous les cas par la fraternité, et qu'il soit aussi consistant. Pourquoi ? Bah parce que l'Institut Jean Pasteur que je préside et que j'ai fondé avec quelques confrères, bah il a quand même des expressions très fortes au niveau tant doctrinal que liturgique, puisque au point de vue liturgique, bah, d'un mot tranchant, c'est qu'on peut célébrer les saints mystères, la messe grégorienne, comme un rite propre, ce qui est quand même très fort et absolument inusité auparavant. Et puis pour ce qui est de ce préambule doctrinal dont vos amis ont parlé, dont on ignore d'ailleurs encore le contenu, je trouve que c'est quand même incroyable que les fondateurs de l'Institut ont eu la permission d'entreprendre une critique constructive des texte du Concile, selon le discours préalable d'ailleurs du pape à la curie romaine du 25 décembre de 2005. Alors effectivement, c'est déjà considérable. J'attends ce préambule avec impatience, parce que je vois difficilement qu'il puisse aller plus loin. Il va rappeler des règles d'interprétation du magistère de l'Église. Qu'est-ce qui fait, quel est le point, le clivage à partir duquel on peut être dit catholique et à partir duquel on n'est pas catholique. On n'est pas dans la communion de la foi de l'Église. Ça peut être très intéressant, mais je ne suivrai pas, vous voyez, l'opinion du canoniste, le père Petit, parce qu'on a l'impression que pour lui, d'un côté, il y a la foi qu'il faut avoir pour être catholique, et puis d'autre côté, il y a le concile. Comme si l'un et l'autre n'avaient absolument rien à voir, c'était hermétiquement clos. Voilà. Pourtant, dit-il, l'Église ne peut pas brader le Concile. Et voilà. Il y a beaucoup de thèses qui concernent la foi dans le Concile. C'est une évidence. Et il y a des expressions nouvelles dont on ne sait pas ou dont il faut établir, c'est l'herméneutique, c'est l'interprétation authentique, la réception authentique, comme l'appelle le pape, dont il faut établir précisément comment elles s'inscrivent dans le corps organique de l'ensemble des doctrines qui elles, appartiennent à la foi.
Hein. Vous voudriez dire alors, que ce n'est pas la même foi, alors ?
Ah, pas du tout. Mais je pense qu'il faut, j'espère que ce préambule vise à donner des consignes précises. Voilà. Par exemple, tous les prêtres en ce moment en Autriche, en Allemagne, qui remettent en cause le primat de Pierre. Bon, ça appartient à la foi. Ceux qui veulent qu'on ordonne très rapidement des femmes, et même certains évêques qui ont assisté à des ordinations de femmes. Bon, bah, je pense que le pape Jean-Paul II, le bienheureux Jean-Paul II, a tranché ces questions de façon dogmatique. C'est vrai qu'on aurait besoin dans l'Église, en ce moment, d'une clarification. Peut-être que c'est le préambule qui va nous l'apporter, j'espère, je souhaite, je prie.
Réponse en quelques mois.
Jusqu'où, qu'est-ce qu'on peut soutenir, hein, qu'est-ce qu'il faut soutenir? Bah, évidemment, le credo, ça, on est d'accord, mais jusqu'où la théologie nous oblige à suivre telle ou telle thèse pour rester catholique.
Il y a une autre question.
Je pense que quelqu'un qui remet le en cause le primat de Pierre, qui dit que Saint-Pierre, le pape, n'a qu'une une primauté de juridiction, je pense qu'il n'est pas catholique. Bon, bah, faudrait qu'on le sache. Si quelqu'un veut faire absolument ordonner des femmes, alors que Jean-Paul II, dans un document dogmatique, a dit que c'était impossible et même invalide, bah, il faut lui dire, monsieur, je suis désolé. Voilà. Maintenant, si quelqu'un est pour ou contre la mondialisation telle qu'elle est prêchée par Vatican II, bah on peut peut-être discuter. Oui. Est-ce qu'il est nécessaire d'être pour la mondialisation pour être catholique? Moi, je crois que non.
La réponse, tout dépend de ce qu'il y a dans ce préambule. Merci beaucoup, monsieur l'abbé Laguérie. On est obligé de se quitter. Merci beaucoup. Voilà, Gérard Leclerc, on arrive bientôt au terme de cette émission. Vous venez d'entendre ce que vient d'évoquer l'abbé Philippe Laguérie. Un mot de cela ?
Écoutez, moi, je suis frappé quand même sur le recentrage de la discussion sur une question importante qui est proprement théologique, l'interprétation du concile, le magistère, etc. Tout ça, c'est quand même central. Et il est bon que, avant toute décision d'ordre canonique ou de réintégration, etc., on soit au clair sur ces ces questions qui sont fondamentales, parce que
pour les uns comme pour les autres,
il y a une règle de foi, et il est important qu'on soit d'accord sur l'essentiel.
Oui.
Et donc cette discussion telle qu'elle apparaît, à partir de, pourtant, d'un texte qui nous est inconnu, me passionne personnellement, parce que je pense qu'il est bon qu'on discute des choses intéressantes et importantes.
Vous voulez dire que Rome élève le débat, finalement ?
Absolument. Absolument, et en rappelant la règle de la foi, en rappelant un certain nombre de règles d'interprétation, et l'abbé Laguéry a eu raison de rappeler le fameux discours de Benoît XVI à l'origine de son pontificat, sur la double herméneutique de Vatican II, l'herméneutique de rupture et l'herméneutique de la tradition.
Un texte disponible sur le site du Saint-Siège, 22 décembre 2005, si vous voulez.
Voilà, ça c'est très important. Je pense que nos auditeurs ont tout intérêt à se reporter à ce texte qui est pour moi fondateur et qui éclaire les discussions d'aujourd'hui.
Alors vous allez sans doute dire que je décentre la discussion. Vous parliez de recentrage avec les questions théologiques et sur le magistère. Il y a quand même une autre question, c'est aussi le lien, si jamais il y avait possibilité d'acceptation de ce préambule. Il y aura ensuite le lien avec les diocèses et avec l'Église en France. Ça ne va pas être simple, ça, hein ?
Oui, je crois. Et c'est pour ça que dans l'Église, la notion de communion, c'est important. Elle nous a été rappelée par le Concile. Et c'est l'ensemble de l'Église, en définitive, qui, à mon sens, doit participer à cette réflexion. Pas seulement les gens de la fraternité, mais tous les catholiques conscients, fidèles, à mon sens, doivent s'intéresser au fond de cette affaire. Parce qu'il serait extraordinairement dommageable que une réconciliation, si elle intervenait, produise un trouble et d'autres fractures dans l'Église. Donc il importe que tout le monde soit associé en quelque sorte au fond de cette discussion, pour que si des décisions interviennent, elles soient
bien comprises.
Comment dirais-je, l'affaire de tout le monde.
Oui. C'est l'affaire
de
tous.
Moi, je suis frappé, évidemment, déjà un éditorial de La Croix d'aujourd'hui, oui. de Dominique.
Très vite, Gérard.
Oui. Pardon ?
Très vite, parce qu'on arrive au terme de cette émission.
Oui, mais marque quand même des réticences, je dirais. Allô, maman Bobo. Il y en a qui sentent ça douloureusement.
Alors, creusons pour entrer dans la communion.
Oui, absolument.
Merci beaucoup, Gérard Leclerc, et merci à tous d'avoir participé à cette émission. Bien sûr, on y reviendra sur ce sujet. Merci beaucoup.
Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
Cette année encore, Radio Notre-Dame emmène ses auditeurs en Terre Sainte, un pèlerinage d'une semaine, du 13 au 20 novembre, que j'aurai la joie de conduire avec le père Alain Caron de la Carrière, que vous entendez sur notre antenne tous les matins. Nazareth, Tibériade, Capharnaüm, Jérusalem, Bethléem, des lieux qui nourrissent notre foi. Partez avec nous en Terre Sainte pour 1 258 € et inscrivez-vous en appelant Ictus Voyage au 01 41 12 04 80.
Regardez ces deux fenêtres. En apparence, elles sont identiques. Mais si on y regarde d'un peu plus près, elles sont très différentes. Regardez la qualité de la pose. Ici et encore ici. Examinez le double joint d'étanchéité et le dispositif anti-soulèvement. On est d'accord ? Rien à voir.
Vous exigez le meilleur ? Alors choisissez la maison de la fenêtre. La maison de la fenêtre, il ne laisse rien passer. sauf la lumière. La maison de la fenêtre, 01 42 11 03 03. 42 11 03 03.
Gardez les soucis apostoliques, missionnaires, d'annoncer l'évangile au cœur du monde.
À l'occasion de la semaine thérésienne, redécouvrez l'esprit missionnaire de Thérèse et de Jean-Paul II. Rendez-vous dans le sanctuaire parisien de la Petite Thérèse du 27 septembre au 2 octobre. Soirée de prière, célébration, conférences, village missionnaire. Tout le programme sur www.semainethérésienne.org.
Écoute dans la nuit.
Dans Écoute dans la nuit, nous faisons chaque soir une découverte. Dieu trace un chemin dans le cœur de tous les hommes. Partez avec moi dans cette aventure passionnante en apportant vos questions, vos témoignages, votre réflexion. Alors, n'hésitez pas, je compte sur vous.
Écoute dans la nuit, présenté par Chantal Bally, du mardi au vendredi à 22h.
Radio Notre-Dame, Marie-Ange de Montesquieu.
Il est 10h59, j'espère que vous passez une très bonne matinée en notre compagnie. Tout de suite après le flash, suivez le guide, deuxième volet cette semaine avec Thierry Georges. L'Amérique s'invite à Paris. Mais tout de suite, un petit mot sur la météo de ce jeudi 15 septembre. Un temps plutôt calme, du soleil un peu partout, des brouillards, dont ceci dit, en Normandie. Et côté température, il fait entre 6 et 10 ce matin, 19 dans le sud. Et puis cet après-midi, entre 19 et 31 du nord au sud. Et une petite annonce pour finir, un concert le samedi 15 octobre à l'église du Luxembourg, à Paris, dans le 6e arrondissement. C'est à 17h le samedi 15 octobre. Des airs de Bach et de Liszt, des leaders de Liszt au programme. Également des morceaux pour piano solo de Tchaïkovski et de Rachmaninov. Et les interprètes seront Nicole Monestier et Grégory Abramian.